Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, nous allons à la découverte et à la rencontre des étapes de la vie entre deuil, développement personnel, prise de décision. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Faiza Ben Moussa, bonjour.
Bonjour, Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Je vais bien, alhamdoulilah. Merci à vous. Je vous remercie infiniment de m'inviter à rejoindre cette belle communauté de femmes et d'hommes que vous invitez.
Berlik.
Qui partagent généreusement leur expérience de vie pour en faire profiter les autres. C'est merveilleux.
Moi, je trouve ça
merveilleux. Je suis très contente que vous ayez pensé à moi. C'est très gentil. Merci beaucoup.
Merci à vous. C'est moi qui vous remercie pour votre confiance. Alors justement, parlant de partage, d'échange, oui. En quoi c'est important pour vous, en tant que femme d'aujourd'hui, d'être dans le partage et l'échange ?
Alors, je ne sais pas par où commencer, mais je peux commencer par la fin.
Ok.
Ces dernières années, ou là, ces derniers mois, c'est devenu pour moi très important de partager.
Ouais.
De partager l'expérience, de partager le résultat de toutes les formations que j'ai suivies. On va en parler certainement un petit peu.
Ouais.
Mais ce serait dommage que les gens refassent les mêmes erreurs et revivent les mêmes expériences, alors qu'il y en a d'autres qui les ont vécues. Peut-être que ça va servir à certains.
Ce
serait très, très bien. Ouais.
Alors, avant de rentrer dans les détails peut-être des erreurs,
oui.
Est-ce qu'en général...
Ou
des challenges de la vie. On va le voir positivement, exactement, parce que c'est des sources d'apprentissage,
oui.
Le Faiza.
Oui. Oui.
Avant d'arriver au concret... On dit souvent qu'on apprend que par ses erreurs. Est-ce que vous pensez que le fait quand même d'en parler, ça va empêcher des gens de commettre ces erreurs parce qu'on a tendance à vouloir vérifier par soi-même ?
Je vois. Oui, effectivement, c'est le cas pour les jeunes parce que moi, je suis à la base professeure.
Oui.
Et j'ai des classes de terminale. J'ai donc j'avais, parce que cette année j'arrête l'enseignement. Je suis professeure agrégée de SVT.
D'accord.
Et j'avais pendant une trentaine d'années des classes de terminale, c'est-à-dire des gens qui sortent de l'adolescence et qui vont vers la vie d'adulte. Et il y en a toujours qui, quand je parle d'une expérience ou d'une autre, ça leur fait plein un déclic. Ils perçoivent le chemin dans lequel ils partaient et qui n'était pas OK. Avec les adultes aussi. La deuxième casquette que j'utilise maintenant, c'est celle de coach.
Mm.
Et quand je fais une formation, quand je fais des formations au sein de mon établissement pour le corps enseignant et ailleurs, des conférences pour les parents, il y a toujours des personnes qui viennent me voir pour me dire « quand vous avez dit ça ». Ça m'a mis face à mes comportements, à mes erreurs.
Mm.
Et c'est un déclic.
Une prise de conscience.
Une prise de conscience. On dit en langage de coaching, on se prend en flagrant délit.
Mm.
On se prend en plaque. Et donc, quand quelqu'un parle de son expérience et que c'est quelqu'un qui vous présente la chose de manière professionnelle, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a vécu du développement personnel, ça déclenche tout de suite des prises de conscience. Et je vous assure qu'il y a plein de personnes qui viennent après me dire « Depuis ce jour-là, tu sais, quand j'ai fait ceci, je me suis rappelé le jour où on a dit ça. Et puis, mon attitude a été complètement différente. » Donc, s'il y a un élève qui a vécu ça dans une classe, s'il y a une personne qui a eu cette prise de conscience dans un groupe de personnes qui ont été à une formation chez moi, je suis satisfaite.
Alors, ça veut dire qu'en général, vous ne dites pas à la personne « Tu devrais éviter de faire ça, ne fais pas la même erreur que moi, ne fais pas... » des injonctions.
Ce n'est pas des injonctions. De toute façon, dans le métier de coach, c'est quelque chose à bannir.
Au-delà du métier de coach, mais d'abord, je sais que vous parlez du point de vue... Avec les élèves, avec vos amis, avec...
Oui.
Quand on a envie que les gens apprennent de nos erreurs.
Non. Quand on dit en général « ne fais pas ça », le cerveau d'Yenne qui ne comprend pas la négation, il va automatiquement aller vers le « ça ».
Oui,
c'est-à-dire pas le contraire. Et donc, quand on le présente comme une expérience vécue, On présente, si vous voulez, l'expérience depuis le début, c'est-à-dire j'ai vécu ceci, j'ai fait ça, sauf que après je me suis rendu compte et j'ai changé et ça a donné ça. Les gens se voient un exemple dans ce qu'on dit. Et donc se disent, bah, moi aussi j'ai ce problème, et si j'essayais ça? Et ça marche. Ou alors c'est juste une prise de conscience que c'est une erreur. Mmh. Mais sans dire à la personne, sauf même dans des coachings individuels, on ne le fait pas. On ne dit pas, ah ça, tu as fait une erreur, il ne fallait pas faire ça, il fallait faire ça.
Bien sûr. Non. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, on vous disait, ne fais pas ci, ne fais pas ça
Ah ben oui.
Ouais. Vous l'avez vécu?
Oui, oui, je l'ai vécu. Moi, j'ai une maman qui est d'une très forte personnalité, qui est très directive, qui est très perfectionniste aussi. Mmh. Donc, il y avait toujours des limites. Il y avait des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et bon, moi, j'étais dans ce qu'on appelle l'enfant soumis, toute gentille. Je ne faisais pas ce qu'il ne fallait pas faire. Je faisais ce qu'il fallait faire. Et quelque part, c'est un peu limitant pour l'enfant. C'est écrasant.
Est-ce que vous aviez le choix, en fait, d'être autrement que ce que vous avez été en tant qu'enfant? Est-ce que vous auriez pu être différente?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Comme j'étais l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, on était 2 frères et 2 sœurs, et très, très rapprochés dans l'âge, et c'est moi l'aînée. Mmh. En général, ce qu'on appelle le rang de naissance, c'est-à-dire le rang d'aîné, il impose une certaine responsabilisation de l'enfant et tout.
Taina, moi aussi, je suis l'aînée de la fratrie.
Et vous êtes un peu pareil?
Oui, tout à fait.
Oui. On se doit, même si le parent ne le dit pas, on se doit d'être l'exemple de ses frères et sœurs. Comme ça.
On est l'exemple de son... Plus que l'exemple, je dirais presque qu'on est un autre parent, en fait.
Oui, oui, effectivement.
Ouais.
Effectivement. On est un second, quelque part.
Oui.
Dès que ma mère n'est pas là, dès qu'elle est sortie, c'est moi qui prends les rênes, et c'est moi qui dis non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas jouer à ça, c'est dangereux. Il faut... Et quand il ne travaillait pas, bon, on était très très proches, quand il ne travaillait pas, bon, d'un clin d'œil, ma mère me regarde et je sors mes cahiers, même si bon, moi j'étais très bonne élève, hein, parce que j'étais dans l'obéissance totale. Donc, pour donner l'exemple.
L'obéissance totale, c'est plusieurs générations qui ont grandi sur ce principe-là de l'obéissance totale. Et de, comme vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez tellement bien dit, en fait, vous avez dit « je faisais tout ce qu'il fallait faire, je ne savais pas ce qu'il ne fallait pas faire, et donc je faisais ce qu'on me disait ». Et j'ai envie de presque vous dire, c'est incroyable, mais à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on ne se connaît même pas, en fait, parce qu'on ne fait que répondre à ce qu'on nous demande de faire, mais en tant qu'être humain, en tant qu'humain, on ne sait pas à qui on est vraiment, parce qu'on ne fait que exécuter des ordres.
Vous avez raison. Et qui je suis vraiment, en fait, je l'ai découvert bien plus tard, c'est après 40 ans, c'est-à-dire avec les formations de coaching. C'est là où j'ai appris à me connaître. Et ça donne un équilibre entre ce que j'ai vécu petite, quelque part, je ne le regrette pas. Les parents aussi, ils ont l'intention de bien faire. Ils ont de l'amour pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fautifs d'éduquer leurs enfants comme ça. C'est ce qu'ils avaient comme bagage pour le faire. Et dans le contexte de l'époque, c'était tout à fait normal. Et même dans les pays occidentaux, et même pour les gens qui font maintenant de la discipline positive parce que j'ai suivi une formation, tout le monde dit la même chose. Aux États-Unis, en Europe, il y avait le châtiment corporel, il y avait l'obéissance sans discussion, il y avait... Et ça change. Et donc, la chose qui est universelle, c'est ce que les parents croient bien faire pour leurs enfants.
C'est ça.
Alors, ils n'ont pas de prise de conscience de ce que ça, comment ça impacte leurs enfants.
C'est ça.
Mais ils veulent bien faire, c'est
ouais,
tout.
Ouais, ouais, ouais. Vous-même, est-ce que vous avez des enfants?
Oui, j'ai deux jeunes dames. Maintenant, elles sont toutes les deux, elles ont fini leurs études, elles travaillent toutes les deux, elles ne sont pas au Maroc malheureusement. Mais bon, j'ai des enfants.
Vous avez des enfants. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, elles vous en ont voulu pour votre éducation vis-à-vis d'elles?
Oui. Yep. Elles en ont voulu à moi et à leur père d'avoir été perfectionnistes. Et donc, même sans le dire, elles sentaient qu'on s'attendait à ce qu'elles soient parfaites. Et donc, oui, sauf qu'elles, elles en ont discuté dès l'aînée, dès l'adolescence, elle a commencé à discuter ça. Mais c'est parce que c'est une autre époque aussi.
C'est ça.
On peut se permettre de discuter la position parent-enfant. qui n'était pas le cas pour nous.
Bien sûr.
Et ça a amené aussi une prise de conscience vis-à-vis des erreurs qu'on a commises dans notre éducation, à être trop intransigeant, à être trop ferme. Donc, bon, petit à petit, j'ai basculé vers une bienveillance et une empathie qui, je l'espère, convient mieux. De toute façon, maintenant, elles sont adultes toutes les deux, donc il n'y a plus ce rapport de...
Vous l'avez accepté quand elles sont venues avec leurs remarques, revendications. Oui, exactement, parce que vous n'avez pas grandi dans les revendications. Est-ce que vous avez accepté les revendications de vos filles la première fois que la revendication est arrivée?
Oui, comme elles ont 5 ans d'écart, 5 ans et demi d'écart, donc c'est bien sûr l'aînée qui a revendiqué la première.
La première, oui.
À l'âge de l'adolescence, il y a eu plein de confrontations, en particulier avec son père. Et moi, j'écoutais et je me disais, cette fille-là, elle a peut-être raison, hein, on a été un peu trop parfait. Quand vous me punissiez, jamais vous ne reveniez sur votre punition, alors que moi, j'étais toute petite et que. Et ça faisait des déclics dans ma tête et je me disais, c'est vrai, on a été trop dur. On a cru élever dans un cadre de respect et des règles, mais c'était trop, je crois.
Alors, Leïla Faïza, vous êtes allée vers des études de vous êtes enseignante, mais vous aviez aussi une grande passion, je ne sais pas si vous l'avez encore, pour un sport d'équipe.
Oui, effectivement. Alors, au fait, c'était effectivement une passion. Moi, j'ai commencé le sport au lycée. J'ai joué en jeu scolaire et après, j'ai été dans le club, j'étais à Mkna, j'étais dans l'équipe du CODEM. Et après, j'ai été sélectionnée en équipe nationale. Et ça, c'est une grande étape de ma vie qui m'a appris plein de choses. Et j'encourage tous les parents pour revenir aux parents.
Oui.
Faire à leurs enfants du sport, ça leur apprend plein de choses. On n'a même pas besoin de dire, il faut faire ceci, il faut être résilient, il faut se battre, il se bat systématiquement quand il fait du sport. Il ne se bat pas dans le sens
négatif.
Il se bat pour maintenir l'effort, il se bat pour être patient, il développe toutes ses compétences grâce au sport. Oui, j'ai joué en équipe nationale de volleyball. J'ai même été pendant longtemps capitaine de l'équipe nationale du Maroc de volleyball. On a eu plein de compétitions au Maroc, c'était merveilleux. On a fait les Jeux méditerranéens des années 80 au Maroc. On a été quatrième place. Les Jeux panarabes, on a eu la médaille d'or. Le championnat d'Afrique des Nations, à la fin des années 80, on a eu la médaille d'argent. J'ai même joué ailleurs. On a joué avec mon club, qui était les Phares à l'époque, le championnat du monde du militaire, et on a eu la médaille d'argent. Et c'est une étape dont je suis très, très fière et qui m'a appris plein de choses.
Alors, quand vous êtes arrivée dans ce monde-là du sport, à l'époque, les parents étaient d'accord, étaient emballés par cette idée-là?
Alors, les parents, en général, non. Mais ma mère, à moi, malgré le côté très autoritaire et très directif, elle m'a laissé jouer du sport contre la vie de toute la famille. Parce que ça demandait des déplacements, ça demandait de se retrouver dans le club. Mknes, c'est un club où il y a la piscine, où il y a le terrain de volleyball, c'est-à-dire le club de volleyball. Ça veut dire qu'on regardait avec mes frères et sœurs les matchs tous les dimanches et parfois il y avait un oncle, quelqu'un de la famille qui vient dire « mais c'est n'importe quoi, comment vous laissez vos enfants partir là, vous ne savez même pas avec qui ils traînent ». Et puis, dès la terminale, j'ai été sélectionnée en équipe nationale et je me suis déplacée tous les week-ends vers Casa pour suivre les concentrations de l'équipe nationale. Et bravo à ma mère et merci beaucoup parce qu'elle m'a fait confiance et elle savait que j'y allais pour faire du volleyball et elle m'a soutenue dans cette... la plupart des parents n'étaient pas du tout. C'était quand même la fin des années 80 et les gens n'acceptaient pas que leurs enfants se déplacent, ou une fille en particulier.
Une fille en particulier.
Dans une autre ville pour jouer. C'était inconcevable pour la plupart.
Exact. Sur une fille en particulier, comme vous dites, à ce moment-là, c'était pas... lors de ces voyages que vous avez rencontré votre mari?
Ah non, non. Non, mon mari, je ne l'ai pas rencontré. Ce n'était pas un sportif du tout. Alors que, bien sûr, une sportive, elle rêvait de
rencontrer un sportif.
Tout musclé. Non, mon mari, je l'ai rencontré dans le domaine de mes études. Moi, je suis professeur de biologie-géologie, c'est-à-dire de SVT. Et lui était géologue. Et donc, on s'est rencontrés dans ce domaine-là. On partageait d'autres
passions
que le volleyball.
C'est important de partager des passions avec son conjoint. Est-ce que c'est important?
je pense qu'il faut au moins partager la grande ligne directrice de sa vie, c'est-à-dire les mêmes valeurs, les mêmes valeurs surtout. Tout le reste peut passer. Par exemple, mon mari et moi, l'Arhmou, il est décédé.
L'Arhmou.
Il n'a jamais fait de sport de compétition et pourtant, j'ai joué alors que j'étais mariée. J'ai joué alors que j'avais ma première fille. J'ai joué après avoir eu ma deuxième fille. C'est-à-dire que j'ai joué pendant une quinzaine d'années mariée et avec des enfants. Et il s'occupait des filles quand moi, je n'étais pas à la maison. Bon, bien sûr, moi, avec mon souci de perfectionnisme, je préparais tout. La maison était nickel, les repas prêts et tout. Mais quand même, il avait le mérite de s'occuper des filles pendant ce temps. Il les traînait souvent sur les terrains pour voir mes matchs. Mais sans cette entente sur ce que représentait pour moi le volleyball, il m'a dit un jour, tu sais, moi rien que parce que je te vois épanouie sur un terrain de volley, moi je suis prêt à assumer tout ce qu'il faut pour que tu continues à jouer ce sport. Et ça c'est parce qu'on partage des valeurs, c'est-à-dire que chacun de nous, moi, quand il préparait son doctorat, il voulait laisser tomber. Ben non. Moi, je suis prête à assumer la maison, je suis prête à assumer le pour son épanouissement, pour qu'il arrive à décrocher son doctorat dont il rêvait, mais il n'avait plus l'énergie, la motivation. Il faut toujours être l'un pour l'autre. Malheureusement, je vois beaucoup de couples maintenant qui se disent « Ah non, moi, ma carrière professionnelle, elle prime. Moi, je fais ce que je veux et la vie de couple, elle vient après. » Non. Si on veut garder son couple, il faut d'abord être sur la même longueur d'onde, point de vue valeur et point de vue éducation, milieu et tout. Et d'autre part, il faut faire des sacrifices pour l'autre. Et il ne faut pas attendre de retour. Le retour arrivera spontanément.
Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous a amené au développement personnel, justement ? Parce que...
Le décès de mon mari.
Oui ? Ah, d'accord.
Et son décès, l'Arhmou, alors il a eu un cancer, donc on a subi ça pendant un an et demi, deux ans. Et son frère, pendant cette période, faisait la formation de certification de coach que j'ai fait après. Et juste après son décès, quelques mois après, mes filles étaient là, on était un peu perdues toutes les trois. Et l'aînée qui venait d'avoir son bac était dans sa galère de classe préparatoire et tout. Et il est venu un jour me dire, Faiza, tu sais, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la formation que j'ai faite de coaching, non pour devenir coach, mais pour toi. D'abord pour toi. Ça te permettra de mieux comprendre tes filles, de mieux les accompagner, de mieux être, de mieux vivre l'après, le deuil, quelque part. Et c'est ça qui m'a amenée vers ce terrain. Au début, effectivement, je l'ai fait surtout pour moi, pour dépasser cette épreuve difficile. Parce que c'est quelqu'un qui était très présent et tout, donc on se retrouve du jour au lendemain à gérer toute seule, l'avenir des filles, la maison, le côté financier, comme disait l'une de vos invitées que j'ai
Oui, absolument.
Le côté financier, mais par contre, moi, je n'ai pas eu le problème dont elle a parlé, c'est-à-dire que la vision des gens autour de moi n'a pas changé envers moi. C'est-à-dire que j'ai continué à avoir les mêmes amis, j'ai continué à voir les gens qui étaient avec moi pendant la maladie, avant la maladie, étaient encore là. Et les gens qui étaient plus ou moins présents ou pas présents, ils n'étaient pas présents.
C'est peut-être aussi une différence d'âge. Elle a perdu son mari, ses enfants étaient encore petits, donc j'imagine qu'elle c'était une jeune femme. Vous avez perdu votre mari, ça fait combien d'années plus ou moins ?
Ça fait quand même 14 ans.
Ah oui, donc ça fait longtemps. Non, vous étiez une jeune femme aussi.
Ça fait longtemps, oui. J'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Je venais à peine d'avoir la quarantaine. Mais c'est pas ça qui m'a gênée dans l'histoire. Et c'est même pas le regard de la société et tout. J'étais gênée parfois d'être toute seule avec des ouvriers à la maison quand j'avais à faire des petits trucs. Mais pas plus que ça.
Alhamdoulilah,
j'ai pas souffert. C'est la solitude de c'est même pas la solitude, c'est le poids de devoir prendre des décisions.
Seul.
Et savoir qu'on va assumer. Et que les gens autour sont quelque part... ils attendent. Ils attendent que tu fasses un faux pas pour dire « Ah, tu vois, tu as mal géré. » Et ça, je crois que même avec un homme à ses côtés, on a toujours ce jugement de la famille, des gens autour, sur ce qu'on fait de nos enfants, sur les études, par exemple, à l'étranger, alors que mes filles étaient dans le système français et que, naturellement, tout le monde partait en France. Donc, il y a eu la question, est-ce qu'elles partent ou pas? Elles font leur choix.
Est-ce que si leur père était là, personne n'aurait posé la question?
En fait, c'était bienveillant envers moi. Ouais. On me disait, tu vas rester toute seule. Tu ne peux pas les laisser partir, tu vas rester toute seule. Et moi, je convaincue, je ne l'ai pas fait pour faire plaisir. J'étais convaincue, je leur ai dit, bon, ma mère, elle m'a laissé jouer, elle m'a laissé aller faire mes études à Rabat quand je l'ai décidé. Et chacun de nous a fait pareil. Donc, moi aussi, j'ai offert cette opportunité à mes filles. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez rester, vous restez. Vous voulez partir, vous partez.
Bien sûr.
Donc, j'aurais été.
On n'a pas essayé de vous présenter un homme, Lella Faïza.
Il y a quelques années, j'ai fait la paix avec moi-même et j'ai fait la paix avec mon mari, l'Arhman. Et je lui parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après une dizaine d'années, un jour, je lui ai dit, repose en paix. Et quelque part, j'ai le droit de vivre. Je ne me suis pas remariée, mais rien du tout. Hein. Mais j'ai juste le droit de vivre sans culpabiliser à chaque fois d'être encore en vie alors qu'il, lui, n'est plus. C'est tout.
Vous avez culpabilisé quand il est parti?
Un peu dans le sens... il y a eu de la culpabilisation quelque part.
De l'extérieur?
D'être là. De l'extérieur, oui. D'être là et huwa miskin, comme si c'était la faute de quelqu'un. Ouais. C'est la faute de personne. Ouais. C'est la faute de personne, oui. Et donc là, je vis en paix, je continue dans mes démarches de formation, de coaching. Cette année, j'ai arrêté les SVT. Je développe encore plus mon travail de développement personnel. C'est-à-dire que je vais en faire mon métier dorénavant, Inch'Allah. Je reviens vers la gratitude pour tout ce que Cédric m'a offert et je reviens vers l'acceptation de tout ce qu'il m'a, tout ce qui est écrit sur ma petite destinée. Alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Faïza Ben Moussa, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous. Merci à vous d'avoir permis que je partage. J'espère que ça apportera quelque chose de positif aux gens autour.
Ben merci beaucoup, je n'en doute pas. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.